Bonjour et bienvenue, 15h, TU 17h à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, Israël décidé à prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Actuellement, son armée multiplie les frappes, mais dans le même temps, elle a commencé à laisser passer de l'aide humanitaire. Nombreuses réactions en Europe pour saluer la victoire de Nicolae Dan, le nouveau président roumain, un pro-européen et un soutien de l'Ukraine. L'Ukraine, dont il est question actuellement entre Donald Trump et Vladimir Poutine, leur appel téléphonique est en cours. En Pologne, le maire pro-européen de Varsovie a remporté de peu le premier tour de la présidentielle. Également dans l'actualité en France, une grande opération de séduction des investisseurs étrangers. Le château de Versailles accueille plus de 200 patrons. Les opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza continuent et même s'intensifient. Israël a lancé des frappes massives pour préparer le terrain à des opérations terrestres et pour réoccuper le territoire côtier. De sources palestiniennes, le bilan depuis ce matin est d'au moins 52 morts. L'onde de choc de ces événements déferle jusqu'au festival de cinéma de Cannes, où est présenté Once Upon a Time in Gaza, un film qui décrit l'univers concentrationnaire de l'enclave. Ses réalisateurs Tarzan et Arabe Nasser sont natifs de Gaza. Il se montre très révolté par l'absence d'action pour stopper la catastrophe en cours. Écoutez.
C'est une histoire qui n'a pas commencé en 2023, mais au moins en 1948. Une histoire de sang, de massacre, d'exil, de privation de droits. Les Palestiniens ont toujours cherché à survivre, à obtenir des droits auprès de toutes sortes d'instances internationales. Et malgré cela, le monde ne les regarde pas. Aujourd'hui, il y a une petite prise de conscience, mais ce ne sont que des paroles timides qui ne parlent que de culpabilité. Il y a déjà tant de morts ou blessés, tout est détruit, et le monde réfléchit à faire entrer des vaccins ou de l'aide alimentaire, mais personne ne se pose la question de comment arrêter le génocide. Ça fait 1 an et 8 mois de massacre. Des femmes, des enfants, des vieux, les arbres, les insectes, tout a été tué. Il faut arrêter les paroles et prendre position pour changer la donne. Il faut arrêter le génocide, c'est tout.
C'est tout. Un propos recueilli au Festival de Cannes par Isabelle Chenu. Once Upon a Time in Gaza est présenté dans la sélection officielle. Sur place, Israël a commencé aujourd'hui à laisser passer des camions transportant de l'aide humanitaire, comme de la nourriture pour bébés. Le Premier ministre ayant annoncé qu'une petite quantité d'aide serait autorisée après plus de 2 mois de blocus. Un sommet inédit depuis le Brexit vient de se tenir à Londres, en présence du Premier ministre Keir Starmer et des présidents des institutions européennes. Les deux parties ont conclu ce matin un accord marquant un nouveau départ entre le Royaume-Uni et l'UE. Emeline Vin, il est question à Londres de redémarrer le logiciel des relations post-Brexit.
Les dirigeants européens et britanniques saluent un nouveau chapitre dans leurs relations. Côté victoire, le Royaume-Uni obtient plus de fluidité aux frontières, moins de contrôles phytosanitaires, ce qui devrait relancer le commerce, et la possibilité pour les voyageurs britanniques de passer par les portails automatiques de contrôle des passeports dans les aéroports, une procédure plus rapide que les contrôles manuels. Les deux parties se félicitent également d'un partenariat sécuritaire. Le Royaume-Uni pourrait rapidement rejoindre le programme européen d'achat d'armement. Côté concession, Londres consent à ouvrir la voie à un programme de mobilité étudiante sur le modèle d'Erasmus, malgré des politiques migratoires récentes assez dures. Et surtout, l'UE a obtenu pour ses pêcheurs un accès aux eaux britanniques pendant 12 ans. Même si la pêche ne pèse que 0,4% du PIB britannique, elle a été érigée en symbole de la souveraineté retrouvée post-Brexit. Les dirigeants se sont fixés de nouvelles dates de rencontres pour poursuivre les discussions. Ces derniers jours, le Royaume-Uni s'était attelé à minimiser les attentes vis-à-vis de ce sommet et revendique ce lundi un accord gagnant-gagnant. Emeline Van Londres, RFI.
La présidentielle qui vient de se tenir en Roumanie était surveillée de près en Europe. Les messages de félicitations ont afflué à l'annonce de la victoire du candidat pro-européen, le maire de Bucarest, Nicolae Dan, vainqueur hier avec pratiquement 54% des suffrages. En Pologne aussi, un candidat pro-européen a toutes ses chances. C'est le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, arrivé légèrement en tête hier au premier tour de la présidentielle devant le candidat du Parti conservateur Droit et Justice. Les deux hommes s'affronteront au second tour le 1er juin.
RFI, Radio France Internationale.
On a appris hier soir que Joe Biden était soigné pour une forme agressive d'un cancer de la prostate avec métastase osseuse. Les médecins de l'ancien président démocrate, âgé de 82 ans, restent prudents sur les chances de réussite d'un traitement. Harim Lipold.
Joe Biden est atteint d'un cancer de la prostate classé au niveau 9 sur une échelle de 10. C'est donc une forme particulièrement agressive avec déjà des métastases osseuses. Selon le bureau de l'ancien président, le cancer semble être hormonosensible, ce qui permettrait une prise en charge efficace de la maladie. Joe Biden, 82 ans, a quitté ses fonctions en début d'année. Il a remercié tous ceux qui lui avaient envoyé des messages de soutien, des vœux de rétablissement venus des responsables politiques de tous bords, y compris de l'actuel occupant de la Maison-Blanche, Donald Trump, qui, on s'en souvient, n'a pourtant pas été très tendre avec son prédécesseur. Pour les démocrates, cette annonce tombe au plus mauvais moment. Elle ravive les critiques sur la gestion du déclin physique et cognitif de Joe Biden au cours de ses derniers mois à la Maison-Blanche. Un livre enquête qui doit paraître demain, signé par deux journalistes, affirme que l'entourage de l'ancien président aurait longtemps dissimulé la dégradation de son état de santé, des accusations que Joe Biden a toujours niées, encore tout récemment dans une interview.
En France, devenir l'artisan d'une victoire de la droite à la présidentielle, c'est maintenant l'ambition du nouveau président du parti Les Républicains, Bruno Retailleau, après sa large victoire hier face à Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau, qui est aussi ministre de l'Intérieur, dissimule de moins en moins ses ambitions élyséennes en vue de la présidentielle 2027. Le scandale du traitement des eaux minérales rebondit avec un rapport sénatorial. Une commission a enquêté sur la façon dont Nestlé Waters a illégalement traité ses eaux afin de les rendre propres à la consommation. Selon elle, l'État a été défaillant. Il a dissimulé des éléments dans cette affaire. Reportage au Sénat de Victorien Villaume.
Dissimulation de l'État, stratégie délibérée. Après 6 mois de travail, 60 auditions, les mots forts de la part d'Alexandre Wizil. Le sénateur socialiste défend un travail long et minutieux.
Nous nous sommes attachés, verbatim à l'appui, à faire des démonstrations. C'est pas notre avis. Je peux vous dire qu'il y a eu des milliers de pages de documents à évaluer, des milliers de mails, de rapports, de notes internes qu'il a fallu décortiquer pour aboutir à réussir à faire émerger la part de vérité.
Les sénateurs pointent du doigt de nombreuses défaillances, une faible mobilisation de l'autorité publique, l'absence des ministres dans le processus de décision, mais également...
Malgré la fraude aux consommateurs que représente cette désinfection, les autorités choisissent de ne pas donner de suite judiciaire à ces révélations. Il est décidé de ne pas révéler au grand public cette fraude. Lorsque l'État a accepté le plan de transformation de Nestlé, il est passé de traitements qui certes étaient illégaux, mais qui d'un point de vue sanitaire étaient extrêmement robuste, à des traitements qui étaient moins robustes.
C'est important de le noter, l'expression « scandale d'État » toutefois n'est pas utilisée dans le rapport. C'est ce qu'auraient souhaité Alexandre Wizil et la sénatrice écologiste Antoinette Gull. Sauf qu'il n'y a pas eu de consensus sur le sujet. Le sénateur de droite Laurent Burgois n'était pas de cet avis.
Victorien Villaume du service politique. En bref, le rapporteur public recommande à la cour administrative d'appel de Toulouse d'ordonner la reprise du chantier de l'autoroute A69, chantier très controversé. Allez, musique pour finir avec Danse Divine, le 4e album de Joe Joa et Lieutenant Nicholson. Il comblera les amateurs de groove créole et de sonorités métissées. José Marino a écouté ce disque pour nous.
La goutte d'oco.
Joe Joa et Lieutenant Nicholson, 46 et 47 ans, l'un est camerounais et marche dans les pas de Francis Bébé, grand poète et musicien de Douala, l'autre antillais, fils de la star de la variété Laurent Voulzy, et ça s'entend.
Dans sa dandine, si ça ne t'ennuie pas, ça t'ennuyait pas, Dieu si dandine,
sa dandine dedans.
Avec Danse Divine, il signe une odyssée sonore cousue main, zouk, afrobeat, bossa nova, ndombolo, électro, funk, un patchwork de rythmes porté par des mélodies aux accents créoles. Mais sous les beats sucrés, le fond est salé. Il chante l'inflation comme on danse sur un tube, parle d'une société qui aime ranger les gens dans des cases et ici d'identité de genre.
Féminine, mène et masculine.
Ça sent féminine, ça te fuit bambine.
Avec Joe Joa et Lieutenant Nicholson, l'engagement se fredonne avec élégance et le groove est une manière de penser.
Toujours en dolce, moi, lui, en caprié.
Serge Joël, lieutenant Nicholson, en tournée en France à partir du 14 juin. Nathalie Amar, bonjour. Quelque chose me dit que vous appréciez.
Mais absolument. Bonjour Gilles Moreau. On va rester en musique tout de suite avec Héritier Ouattara sur le Pont des Arts.